de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Jokowi a demandé le développement de l'industrie nationale de la défense. Recevant le ministre des Affaires étrangères du Portugal, la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie souligne les réalisations de la coopération entre les deux pays. L'Indonésie est un pays sur lequel comptait lors de la réunion du G20, a affirmé la ministre indonésienne des Finances. Potentiel de 2 millions de touristes étrangers visitant le temple de Borobudur. Le gouvernement augmentera les investissements dans 5 destinations super prioritaires. Le Royaume-Uni fournit une assistance technique à l'Indonésie concernant la tarification du carbone. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo a demandé le développement de l'industrie nationale de la défense car le potentiel du marché étranger pour ce secteur est assez grand. Lors de sa visite lundi à Pindad Société Anonyme dans le district de Touraine, la résidence de Malang, Jawa Oriental, le président Joko Widodo a déclaré que l'industrie nationale de la défense offre actuellement des opportunités prometteuses. Selon le président Joko Widodo, outre le potentiel des produits à balles fabriqués par l'industrie nationale de la défense, un certain nombre d'autres produits qui sont également demandés par le marché étranger comprennent des véhicules tactiques et des armes. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a reçu la visite de son homologue de Portugal, João Gomes Cravino, au bâtiment Pancasila du ministère indonésien des Affaires étrangères à Jakarta, lundi 24 juillet. Selon elle, cette visite était la première visite du ministre portugais des Affaires étrangères au cours de la dernière décennie. Dans une déclaration conjointe prononcée après la réunion, la ministre Retno Marsudi a déclaré que la visite du ministre des Affaires étrangères Cravino avait créé un nouvel élan pour que les deux pays renforcent davantage les relations bilatérales. La rencontre des deux ministres des Affaires étrangères a mis en évidence un certain nombre de développements dans le partenariat entre l'Indonésie et le Portugal. Retno Marsudi a souligné les investissements élevés du Portugal en Indonésie qui ont continué d'augmenter jusqu'à 2000% entre 2019 et 2022.
There has been a remarkable growth in our investment value.
Il y a une croissance remarquable de la valeur de notre investissement. Les investissements du Portugal en Indonésie ont considérablement augmenté de 2000% entre 2019 et 2022. En effet, il s'agit d'un nombre record. Les investissements dans les énergies renouvelables et l'économie bleue ont été discutés en tant que secteur prioritaire. Pendant ce temps, dans le secteur de la coopération en matière d'huile de palme, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a exprimé sa gratitude pour la confiance du Portugal dans l'huile de palme de l'Indonésie. Selon elle, les importations d'huile de palme en provenance d'Indonésie ont augmenté de 77% entre 2019 et 2022. Selon elle, cette augmentation a été déclenchée par des incitations à importer des dérivés d'huile de palme comme matière première pour le biodiesel. Une autre chose qui a également été discutée était le secteur de l'énergie et de la coopération maritime. En dehors de cela, la rencontre entre la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et le ministre portugais des Affaires étrangères, João Gomes Cravinho, a également été utilisée pour discuter d'un certain nombre de questions régionales et mondiales. Selon Retno Marsudi, la réunion a produit un certain nombre de notes positives dans la coopération entre les deux pays. La ministre des Finances, Sri Mulyani, a qualifié l'Indonésie de pays sur lequel comptait lors de la troisième réunion des ministres et gouverneurs des banques centrales du G20 sous la présidence indienne. L'Indonésie est toujours invitée à être orateur principal lors des réunions. Cela montre que les opinions d'Indonésie sont très décisives et prises en compte. C'est ce qu'a déclaré Sri Mulyani lors de la conférence de presse sur le budget de l'État de Kita, l'édition de juillet 2023, qui a été surveillée en ligne à Jakarta lundi. Selon Sri Mulyani, l'Indonésie donne son avis sur un certain nombre de questions économiques telles que la collaboration dans les secteurs financiers et de la santé, l'utilisation du développement multilatéral et de l'investissement privé, y compris la finance durable, le développement d'infrastructures durables et la fiscalité internationale. Sri Mulyani a ajouté que l'Indonésie avait également renforcé les relations bilatérales en organisant des réunions avec les ministres des Finances dans certains nombre de pays comme l'Inde et l'Australie. Avec l'Inde, le ministre des Finances a formé un dialogue économique et financier EFD à Gandhinagar, Gujarat, en Inde. Le ministre du Tourisme et de la Communication, Sandiaga Uno, a déclaré qu'il existe un potentiel de 2 millions de visites de touristes étrangers dans les destinations super prioritaires, le temple de Borobudur et les sites autour du temple de Borobudur, si le gouvernement développe le tourisme spirituel. Cela a été transmis par Sandiaga Uno dans le bref hebdomadaire avec Sandi Uno à Jakarta, lundi 24 juillet. Selon Sandiaga Uno, le tourisme spirituel dans la destination super prioritaire du temple de Borobudur a également un impact économique d'environ 2 milliards de dollars américains où les dépenses des touristes étrangers sur l'économie locale sont assez élevées et la durée de séjour des touristes étrangers est d'environ 4 à 7 jours.
Tapi juga ada peluang untuk menghadirkan.
Mais il y a aussi une opportunité d'avoir un impact économique d'environ 2 milliards de dollars américains, soit environ 30 billions de rupiah. Car ces 2 millions de touristes étrangers sont des touristes de qualité, le montant dépensé pour l'économie locale ainsi que leur durée de séjour est estimé entre 4 et 7 jours. Sandiaga Uno a notre déclaré que le gouvernement créerait plusieurs installations supplémentaires telles que des lieux de culte pour les 2 millions de touristes étrangers visitant le temple de Borobudur. Non seulement cela, selon Sandiaga Uno, le gouvernement a également préparé des forfaits spéciaux pour l'éducation et la conservation pour les touristes étrangers visitant Borobudur. L'Indonésie a toujours été la priorité des destinations touristiques mondiales. C'est pourquoi le gouvernement souhaite davantage d'investissements présentant de nouveaux produits touristiques, de nouvelles installations touristiques et des hébergements dans 5 destinations super prioritaires. Dans le bref hebdomadaire avec Sandi Uno à Jakarta lundi, Sandiaga Uno a déclaré qu'il y a une valeur d'investissement du tourisme vert dans les destinations super prioritaires de l'Octobre de 600 milliards de dollars américains, Alicoupang de 2 millions de dollars américains et à Mandalika de 541 millions de dollars américains. À l'avenir, selon Sandiaga Uno, le gouvernement cible un investissement supplémentaire de 6 à 8 milliards de dollars américains dans 5 destinations super prioritaires.
Kita ingin ke depan ada 6 sampai 8 miliar US dollar tambahan investasi di 5.
Nous voulons à l'avenir 6 à 8 milliards de dollars américains dans des investissements supplémentaires dans 5 destinations super prioritaires ainsi que dans des destinations touristiques nationales stratégiques. Le nombre d'emplois que nous voulons créer grâce à cet investissement est assez grand, car 45 millions d'Indonésiens dépendent du tourisme et de l'économie créative. Sandiaga Uno a en outre déclaré que le gouvernement créera un programme afin que les investissements soient répartis uniformément dans 5 destinations super prioritaires. En outre, selon lui, le gouvernement encouragera également l'engagement des gouvernements locaux liés au permis et à la préparation des projets dans l'espoir que les investissements augmenteront, ouvrant ainsi des opportunités commerciales et d'emploi. Les gouvernements de l'Indonésie et du Royaume-Uni ont signé un accord de mise en œuvre du programme de tarification du carbone pour soutenir le développement et la coordination des politiques de valeur économique du carbone. À travers la signature de l'accord en présence directe du ministre indonésien de coordination des affaires maritimes et de l'environnement, Luhut Binsar Panjaitan, et l'ambassadeur britannique d'Indonésie, Owen Jenskin, à Jakarta, lundi, le Royaume-Uni a engagé 2,7 millions de livres sterling ou environ 52,2 milliards de roupies pour fournir une assistance technique pour soutenir le développement et la coordination des politiques de tarification du carbone. Selon Luhut, de nombreux outils et stratégies sont utiles pour atténuer le changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre, y compris l'économie du carbone. Différents pays ont adopté et mis en œuvre ces outils pour encourager la transition vers des pratiques plus durables et sobres en carbone. Luhut a déclaré que le gouvernement indonésien s'était rendu compte que le pays avait besoin de soutien et de collaboration avec d'autres parties pour atteindre des objectifs ambitieux. Par conséquent, l'Indonésie et le Royaume-Uni se rendent compte de l'importance du partenariat pour résoudre les défis mondiaux liés au changement climatique et ont convenu de signer cette coopération. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Oh,
C'est Jamie de l'antenne. Comme d'habitude, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire dont le titre est « Visite du ministre des Affaires étrangères du Portugal ». La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a tenu une réunion bilatérale avec son homologue portugais, João Gomes Cravinho, à Jakarta, lundi 24 juillet. Au cours de la réunion, les deux ministres ont discuté de divers secteurs à partir de l'investissement de l'île de Palme à la coopération maritime. La visite du ministre des Affaires étrangères du Portugal en Indonésie a abouti à plusieurs accords mutuellement bénéfiques pour les deux pays. L'arrivée du ministre João Gomes Cravinho dans des pays membres de l'Union européenne au milieu de l'action de l'Union européenne sur le règlement sans déforestation et ODR qui a stoppé les produits de base de l'Indonésie en mai dernier devrait au moins fournir une ouverture pour examiner l'application des réglementations considérées comme préjudiciables à l'Indonésie. Lors d'une conférence de presse après la réunion bilatérale, la ministre Retno LP Marsudi a déclaré qu'il y avait eu une croissance extraordinaire de la valeur des investissements. Les investissements portugais en Indonésie ont augmenté de manière significative de 2000% entre 2019 et 2022. C'est en effet le plus élevé jamais enregistré. Les investissements dans les énergies renouvelables et l'économie bleue sont considérés comme des secteurs prioritaires. L'histoire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Portugal a commencé en 1950 et s'est poursuivie avec la visite du président Sukarno en 1960. Cependant, les relations diplomatiques ont été interrompues en 1975 en raison du problème du Timor oriental et ont repris le 28 décembre 1999, 4 mois après la sécession du Timor-Leste de l'Indonésie. Outre la question des réglementations européennes très discriminatoires à l'encontre des produits de plantations indonésiennes, au moins, la visite du ministre des Affaires étrangères du Portugal a un impact positif sur les économies des deux pays, en particulier l'Indonésie. Parce que plusieurs points de l'accord bilatéral stipulaient que les exportations agricoles et de plantations de l'Indonésie vers le Portugal étaient le pilier de l'Indonésie. Espérons que les accords entre l'Indonésie et le Portugal ouvriront les yeux de l'Union européenne sur le fait que ce qui a été mis en œuvre en mai était erroné. C'est Judith Tark, c'était le commentaire pour ce soir. La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Ariel 12 et les dossiers au courriel voiquiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants. From Indonesia to the world. Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui qui va commencer avec l'événement du 25 juillet 1978, la naissance de la première bébé éprouvette, Louise Braun. Le programme bébé éprouvette, initié par Robert Edward et Patrick Step 2, a réussi avec la naissance d'une petite fille nommée Louise Braun. Louise Braun est née à Oldham and District General Hospital à Manchester, en Angleterre, le 25 juillet 1978, des parents Leslie et Peter. Louise Braun est née après minuit par césarienne, pesant 2,27 kg. Bien qu'au départ, il y avait de nombreux avantages et inconvénients concernant le processus du bébé éprouvette, Après le succès du premier bébé éprouvette, de nombreux couples qui avaient des problèmes de fertilité ont suivi le programme bébé éprouvette. En Indonésie, le premier bébé éprouvette nommé Nugroho Karyanto, né le 2 mai 1988 à l'hôpital de maternité et infantile Harapan Kita, Jakarta, par une équipe de médecins dirigée par Sudraji Sumapraja. Passons maintenant à l'événement du 25 juillet 2000, l'avion supersonique Concorde s'est écrasé à Gonesse. Le seul incident mortel impliquant l'avion supersonique Concorde s'est produit le 25 juillet 2000. À ce moment-là, l'avion de passagers supersonique Concorde qui a décollé de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris en direction de l'aéroport John F. Kennedy, New York, s'écrase sur un morceau de titane appartenant à l'avion DC-10 de Continental Airlines qui sont laissés sur la piste. Le fragment de titane a percé un pneu d'avion, provoquant l'explosion du pneu. Les fragments de pneu ont heurté le réservoir de carburant, ce qui a provoqué un incendie. Lorsque le feu se propage à l'aile gauche de l'avion, le moteur meurt et l'avion s'écrase. L'avion s'est écrasé dans un hôpital de Gonesse, au Val d'Oise. 109 passagers ainsi que l'équipage de conduite et 4 employés de l'hôtel ont été tués dans l'accident. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la Journée mondiale de la prévention de la noyade. La Journée mondiale de la prévention de la noyade est célébrée chaque année le 25 juillet. Ce jour a été fixé par les Nations Unies, ONU, en 2021. L'objectif est de sensibiliser aux dangers de la noyade et d'éduquer le public sur le moyen de prévenir et de sauver les gens de la noyade. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Thank you.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie ayant pour le titre « L'Indonésie demande à la France de s'entendre sur un traité sans nucléaire ». La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a demandé à la France d'approuver le protocole de traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est dans le but de maintenir la paix et la stabilité dans l'Indo-Pacifique. La ministre Retno Marsudi en a fait part lors d'une réunion bilatérale avec la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, à Paris en France vendredi. La France fait partie des pays dotés d'armes nucléaires ciblés par l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, pour signer le traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est, aux côtés de la Chine, de la Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis. Comme cité sur la page d'Antara, 21 juillet, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, lors d'une réunion régionale à Jakarta la semaine dernière, avaient également demandé aux 5 pays dotés d'armes nucléaires d'adhérer au protocole. Les ministres des Affaires étrangères des pays dotés d'armes nucléaires présents à la réunion de l'ASEAN étaient le ministre américain des Affaires étrangères, Anthony Blinken, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, tandis que la Chine était représentée par un diplomate qui est également le directeur du Bureau central des Affaires étrangères chinois, Wang Yi. Lors de sa rencontre avec la ministre française des Affaires étrangères, Retno Marsudi a également souligné que le minilatéralisme dans la région doit soutenir la paix, la stabilité et la prospérité dans l'Indo-Pacifique. En 2023, la France a conclu un accord minilatéral avec les Émirats arabes unis et l'Inde. Auparavant, un certain nombre de coopérations minilatérales régionales qui étaient formées étaient des quadrilatères qui comprenaient l'Inde, les États-Unis, le Japon et l'Australie. Ensuite, il y a aussi le BRICS qui se compose du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. En dehors de cela, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a également souligné que la voix des pays du Sud doit être davantage entendue. Il a déclaré que l'Indonésie et la France pourraient devenir un pont entre le Nord global et le Sud global. Le Sud global est un terme de politique mondiale qui fait référence aux pays en développement d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique et d'Océanie, alors que le Nord global fait référence aux pays développés d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie de l'Est. À la ministre Colonna, la ministre Retno Marsudi a également exprimé l'espoir de protéger la région Indo-Pacifique afin qu'elle ne devienne pas une arène pour une démonstration de puissance. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter la danse de Maengket. La danse de Maengket est l'une des danses traditionnelles du peuple Minahasa qui vit dans le nord de Sulawesi. Cette danse est généralement exécutée en masse par les danseurs masculins et danseuses. Cette danse est un symbole d'action de grâce pour une récolte abondante. Elle est donc souvent exécutée chaque année lors des fêtes de la récolte. L'une des zones de Minahasa où cette danse a lieu est le village de Ranowanko, dans le district de Kombi. Maintenant, cette danse n'est pas seulement exécutée pendant la fête des récoltes, mais aussi lors de l'accueil des invités et des grandes vacances. Le nom de la danse de Maengket est tiré du mot Engket, dans la langue locale, signifie soulever le talon du pied de haut en bas. Avec l'ajout de ma au mot enquête, cela peut être interprété comme une danse de haut en bas. Autrefois, cette danse utilisait des mouvements simples. Aujourd'hui, la danse de ma enquête s'est développée à la fois en termes de danse et de forme de performance. Cette danse est divisée en plusieurs types selon leurs objectifs respectifs, comme par exemple le mouvement de danse de Mawei Kimberu ou Owe Kimberu. Ce mouvement symbolise la gratitude pour les produits agricoles abondants. Puis le mouvement de la danse de Marambak. Ce mouvement illustre l'esprit de la coopération mutuelle. Et la danse de Lalayan qui décrit les jeunes à la recherche d'un compagnon. La danse de Maengket est généralement jouée par des danseurs masculins et féminins, par pairs et dirigée par une femme. Dans les spectacles de danse Maengket, il n'est généralement accompagné que de musique de tambour. Mais il y a aussi ceux qui utilisent d'autres musiques traditionnelles, comme ajout ou variation, comme les instruments de musique tifa ou kolintang. Les danseurs portent généralement des vêtements traditionnels. Les danseuses utilisent le kebaya et le long tissu typique du nord de Sulawesi. Ces cheveux sont en chignon. Pendant ce temps, les danseurs masculins portent des chemises à manches longues, des pantalons et des couvre-chefs typiques du nord de Sulawesi. Pour le chef de danse, il porte des vêtements presque identiques à ceux des danseuses. Cependant, plusieurs créations telles que des motifs ou des couleurs différentes sont ajoutées afin qu'elles puissent se différencier. Tous les danseurs apportent généralement un mouchoir à utiliser pour la danse. Chers amis, c'est un magazine culturel de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé La danse de Maengket. Merci à tous, à bientôt.
terus beranjak pergi melangkahi mentari. Ku coba mendahului hari. Sungguh ku tak pernah begini. Pedih yang menemani meski
Tard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. C'est la station de radiodiffusion à l'étranger des radios République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Beratapkan Rumbia. Beratapkan Rumbia, ayant le toit de chaume. Bonne écoute. Sagittaire, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Beratapkan Rumbia. Beratapkan Rumbia, ayant le toit de chaume. Cette conversation se déroule entre Chris George Robinson, un vlogueur australien, et des habitants du village de Hilisi Maitano sur l'île de Nias. Le résident a décrit la partie omohada de la maison à Chris.
Ini rumah omohada. Rumah ini beratapkan rumbia.
Katanya, rumah ini tahan gempa ya?
Iya, rumah ini disokong tiang-tiang kayu vertikal dan diagonal.
Sagittaire, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, intitulées Beratapkan Rumbia, Beratapkan Rumbia, ayant le toit de chaume. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Beratapkan, Beratapkan, ayant le toit, Rumbia, Rumbia de chaume. Rumah ini beratapkan rumbia. Rumah ini beratapkan rumbia. Cette maison a le toit de chaume. Tahan gempa. Tahan gempa. Résistant au tremblement de terre. Disokong. Disokong soutenu. Tiang tiang kayu. Tiang tiang kayu, pilier de bois. Vertical. Vertical, vertical. Diagonal. Diagonal, diagonal. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu la phrase Rumah ini beratapkan rumbia. Rumah ini beratapkan rumbia. Cette maison a un toit de chaume. Dans cet énoncé, il y a le mot beratapkan. Beratapkan, avoir le toit. Le mot beratapkan, beratapkan, avoir le toit, signifie beratap. Beratap, avoir un toit, vient du mot atap. Atap, toit. Pour décrire une partie de la maison, par exemple un toit, vous pouvez utiliser le mot beratapkan. Beratapkan, avoir le toit, qui est suivi d'un mot qui décrit le matériau utilisé, comme rumbia. Rumbia, chaume. Maintenant, il y a d'autres exemples. Allons écoutons d'autres exemples d'utilisation de mots pour décrire des parties de la maison. Berlantaikan. Berlantaikan. A des sols. Rumah omohada berlantaikan kayu. Rumah omohada berlantaikan kayu. Maison d'omohada a du parquet. Berdindingkan. Berdindingkan, a des murs. Rumah omohada berdindingkan kayu. Rumah omohada berdindingkan kayu. Maison d'omohada a des murs en bois. Sagittaire, la maison d'omohada n'utilise pas de clous, mais des piquets. On pense que cela rend omohada résistant au tremblement de terre. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Ini rumah omohada. Rumah ini beratapkan rumbia.
Katanya, rumah ini tahan gempa ya?
Iya, rumah ini disokong tiang-tiang kayu vertikal dan diagonal.
Bon, Sagittaire, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Arial 12 et les dossiers au courriel voiquiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants. From Indonesia to the world.
Chers amis, c'était la 4e chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia, voici le magazine musical. Dans cette édition, je vous donne une chanson malaise intitulée « Kepri Berbenah » chantée par Samudra Ensemble. Créée par Adeline Kapin, cette chanson raconte des conseils aux jeunes des îles Riau ou Kepulauan Riau ou abrégeant « Kepri » pour faire respecter la culture, « Sunir » pour développer les îles Riau. Samudra Ensemble est un groupe de musique composé de jeunes talentueux de la province des îles Riau. Ils collaborent musique ethnique et musique moderne. À travers leur musique, ils veulent prouver que la culture malaise a sa propre unicité qu'on doit préserver. Bon, chers auditeurs, voici Kepri Berbenah de Samudra Ensemble. Bonne écoute!
Kepri, santun bahasa junjung marwah.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.